Bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui c'est l'heure du point d'artiste de juin 2021, où je partage avec vous le cheminement et les réflexions qui m'ont occupée ce mois-ci. Alors, si vous suivez mes différents contenus, vous avez probablement remarqué que ces dernières semaines, je me recentre beaucoup sur mon intention de mener une vie plus créative et sereine dans le monde moderne. Comment intégrer davantage de slow dans mon quotidien d'artiste et dans mon quotidien d'être humain? Et comment cette philosophie de vie s'inscrit dans mes habitudes, mes priorités, ma manière de créer, etc. Et je pense que c'est un thème qui colorera pas mal mes réflexions ces prochains temps, parce que je sens que ça me tient énormément à cœur et que cette philosophie slow que je suis en train de redéfinir pour moi-même en ce moment, aussi bien en tant qu'artiste qu'être humain, est vraiment alignée avec la personne que j'ai envie d'être, avec mes valeurs, avec la contribution que j'ai envie d'apporter au monde, que ce soit via les Bulles Nomades ou en tant qu'artiste en général. Et alors, ce qui est hyper intéressant quand on prend le temps de porter son attention sur un sujet comme celui-là au quotidien, ce sont les choses qu'on découvre justement parce qu'on est en train d'y prêter attention. Des choses qui étaient déjà là, mais dont on n'avait pas forcément conscience avant. Et ce mois-ci, j'ai pris conscience d'une chose vraiment centrale dans mon parcours de vie et d'artiste, et que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que je ne suis peut-être pas la seule à être confrontée à ça, à savoir arrêter de vouloir être parfaite. Et en fait, un cadeau que m'a fait le slow, c'est de me reconnecter avec mon imperfection d'être vivant, au lieu de courir après une vie parfaite, qui est non seulement impossible à atteindre, mais qui serait tellement lisse, mécanique, sans surprise, sans vie finalement, que j'en arrive à non seulement lâcher prise sur l'envie de perfection, mais que ce n'est plus du tout quelque chose qui me fait envie. Je trouve ça un petit peu mort, un petit peu terne, une vie parfaite. Et ça, j'en ai pris conscience ce mois-ci, alors même que le processus se passe sous la surface de ma conscience depuis déjà un petit moment. Sois parfaite. C'est un driver qui a toujours été très présent chez moi en tant que fille aînée. Dans mon éducation, dans la société, j'ai énormément internalisé l'idée que je n'ai de la valeur que si je suis parfaite et que si je fais les choses parfaitement. C'est probablement également lié à mon diagnostic de haut potentiel ou surdoué, comme on disait à l'époque, quand j'étais enfant, parce qu'il ne fallait surtout pas, entre guillemets, gâcher mon intelligence. Merci la pression. Alors, on reparlera de ce sujet-là dans un autre podcast si ça vous intéresse, mais pour en revenir à la perfection, j'ai pris conscience que cette injonction interne de « sois parfaite » a beaucoup mené finalement à la procrastination. Et ce, notamment dans l'art, que ce soit la création d'œuvres en elle-même ou le lancement d'initiatives autour de ma carrière d'artiste, comme par exemple ce podcast, le Patreon, la boutique, etc., etc. Parce que j'ai des idées, ça manque pas. Je manque pas d'idées, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, lorsque je vais poursuivre une idée, je vais commencer à faire des recherches, faire des premiers tests. Mais alors, il manque toujours quelque chose pour que ce soit prêt à lancer, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que j'ai pas oublié quelque chose, peut-être apprendre une nouvelle compétence, perfectionner encore ceci ou cela. Et finalement, je me retrouvais à passer des semaines, des mois, des années à peaufiner les choses, à me renseigner, à apprendre, à rester dans la théorie, en fait, plutôt que d'offrir cette initiative au public ou bien d'envoyer ce roman aux éditeurs. Ça ne suffisait jamais. Il y avait toujours des renseignements complémentaires à prendre d'abord, toujours une formation supplémentaire à suivre, toujours des détails à peaufiner. Parce que vous comprenez, ce n'était pas parfait. Par exemple, mon premier roman de science-fiction, qui était un space opéra qui avait pour nom de code l'Aeneas, je l'ai entièrement réécrit 3 fois. Sans compter toutes les phases de correction, évidemment, de chacune des 3 versions du roman, avant de finalement le laisser dans un tiroir parce que j'avais moi-même trop évolué, trop changé entre-temps, et je ne me reconnaissais plus dans cette histoire. Ou encore, un autre exemple, j'ai mis pas loin de 2 ans à lancer ma boutique d'artiste entre le moment où j'ai eu la première idée d'ouvrir cette boutique et le moment où j'ai accepté de lancer un site qui finalement n'était pas parfait, avec des créations que j'ai mises en vente qui n'étaient pas parfaites non plus. Et en fait, le problème, c'est que quand on attend que quelque chose soit parfait avant de le lancer, eh bien, on ne le lance jamais. Parce que dans les pratiques créatives, tout comme dans la vie en fait, la moitié de l'apprentissage se fait par les connaissances théoriques et l'acquisition de compétences techniques, certes, mais l'autre moitié se fait en passant à l'action, en expérimentant, en voyant concrètement ce qui marche ou pas, en regardant concrètement ce qu'on sait faire, ce qu'on doit approfondir, etc., etc. Donc si on attend que tout soit parfait pour agir, on n'agit jamais. Puisque c'est dans l'action qu'on s'améliore et qu'on apprend. Alors avec le temps, grâce à mes divers groupes d'entraide d'artistes, grâce à ma coach aussi, j'ai appris à faire un premier pas. J'ai appris à revoir mes ambitions à la baisse. Et c'est une forme d'humilité finalement, et l'humilité fait partie de ma constellation de valeurs. C'est une valeur qui compte beaucoup pour moi. En fait, j'ai accepté de commencer petit. J'ai accepté que ma première tentative ne soit pas l'image grandiose du projet que j'avais en tête. Par exemple, j'ai accepté que ma première boutique, ce soit un plugin WooCommerce sur WordPress avec un thème public gratuit que j'ai trouvé quelque part avec 2 produits dessus, plutôt que ce soit cette espèce de immense truc que je m'étais imaginé dans ma tête avec des aquarelles, avec de la papeterie, avec des tas de produits différents, avec des PDF, avec des zines, avec des cours en ligne, avec plein de trucs. Ben non, j'ai accepté de commencer par un petit espace à moi avec seulement 2 petits produits dessus. Et en fait, j'ai appris à expérimenter. Avec un esprit curieux et ouvert, j'ai appris à tirer des leçons. Et j'ai appris à améliorer le projet, en fait, améliorer les choses, petit à petit, étape par étape, en agissant, en faisant, en testant, en expérimentant. Et surtout, en acceptant que ce que je fais est imparfait. Et le sera toujours. Peu importe comment je peaufine les choses, ce sera toujours imparfait. Et en fait, il y a une forme de vulnérabilité à accepter de proposer quelque chose d'imparfait. Parce qu'on s'ouvre à la critique, on s'expose à la possibilité de l'échec. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Je me souviens d'une artiste que j'apprécie beaucoup sur YouTube, qui s'appelle Minnie Small. Si vous voulez aller voir son contenu, c'est en anglais. Et dans une de ses vidéos sur son Patreon, je crois, elle expliquait que c'était une vidéo sur comment elle avait lancé justement sa carrière d'artiste et comment elle, je crois que c'était comment elle tenait sa boutique en ligne en particulier. Et elle expliquait que pour savoir comment lancer une boutique d'artiste et vendre ses créations, il m'a fallu la lancer la boutique en fait. C'est-à-dire qu'elle est autodidacte et elle a tout recherché sur Google, comme moi quand j'ai lancé les curiosités de Florivine, qui est ma boutique d'artiste. Et en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que c'était en faisant les choses, en commençant à créer sa boutique concrètement, pas seulement le projet sur le papier, mais en commençant à passer à l'action. Par exemple, je sais pas moi, en choisissant l'hébergeur, en créant une première fiche produit, j'en sais rien, voilà, en faisant des choses concrètes, qu'elle tombait sur des écueils précis pour lesquels elle pouvait chercher des solutions précises. Et elle expliquait que quand on pose des questions précises en ligne, en farfouillant un petit peu, on trouve les réponses en fait. Mais pareil, mais quand on pose des questions qui sont trop générales, c'est là qu'on va pas forcément trouver de réponse adéquate. Et en fait, il faut passer à l'action pour savoir quelles questions poser en fait. Par exemple, si vous tapez « comment ouvrir une boutique en ligne » sur Google, il va sortir tout un tas de conseils généraux qui seront finalement pas forcément utiles. Enfin, moi, je sais que ça a été mon cas, ça n'a pas été forcément utile parce que je savais déjà tout ça, en fait. C'était beaucoup trop général. Par contre, si vous tapez « comment faire figurer des frais de port différents en fonction du pays de l'acheteur et de la taille du colis ?» Et bien là, c'est quand même hyper précis comme question. Et vous allez tomber sur des réponses beaucoup plus précises qui vont vraiment répondre à cette problématique précise. Et en gros, dans l'essence, ce que disait Minnie Small dans cette partie-là de la vidéo, c'est que pour savoir quelles questions poser, pour savoir quel problème résoudre, ben en fait, il faut s'y confronter au problème. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre en action et qu'il faut se lancer avant d'avoir toutes les réponses. puisqu'avant de se lancer, on n'a même pas les questions encore, voyez. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut accepter de se lancer avant d'être prêt. Il faut accepter de lancer quelque chose d'imparfait et se faire confiance d'apprendre, de grandir, d'améliorer et de trouver une manière de faire et des solutions qui nous ressemblent. Et en fait, quand je reviens sur mon parcours, quand je réfléchis à mon parcours d'artiste et d'indépendante, je me rends compte que je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est en acceptant de commencer petit, de me lancer sans savoir encore exactement comment j'allais faire dans le détail, que j'ai compris quelles questions poser, quelles compétences à améliorer, quels outils me procurer, et ce au fil de l'eau en fait, grâce à des expérimentations concrètes et grâce au passage à l'action. Pas simplement en essayant de peaufiner un plan parfait qui prenne en compte toutes les possibilités en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est intéressant dans tout ça, ce dont j'ai pris conscience ce mois-ci en particulier, c'est à quel point le slow m'aide dans cette démarche-là. C'est-à-dire que le slow, tel que je le définis pour moi-même en tout cas, hein, m'aide à m'honorer en tant qu'être vivant imparfait. Ça m'aide à accepter l'inéluctabilité des erreurs que je vais commettre. Et ça m'aide à profiter en fait de ce chemin d'apprentissage au lieu de me focaliser uniquement sur le résultat, ce fameux résultat parfait auquel j'aspire. En gros, c'est la même idée que profiter du voyage plutôt que de courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça, c'est une leçon de la philosophie de vie slow. Qu'en profitant du voyage, on accepte aussi où on en est sur notre chemin. On accepte quel paysage nous entoure aujourd'hui au lieu de se focaliser sur le paysage qu'on veut atteindre après. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « je devrais être en haut de la montagne, la vue sera parfaite là-haut » et je ne peux pas profiter de la vue tant que je ne suis pas là-haut et qu'elle n'est pas parfaite parce qu'il faut que je monte la montagne le plus vite possible. Donc ça, le slow déconstruit un peu cette vision des choses. Et avec le slow, j'accepte que pour atteindre le haut de la montagne, je dois emprunter les chemins de traverse. Je dois gravir la montagne. Je dois passer par des sentiers rocailleux qui sont difficiles à franchir. Je dois traverser des corniches qui font peur. Je dois passer par des forêts denses avec des bruits inconnus qui font un petit peu peur. Mais je prends aussi le temps de savourer ce chemin que je parcours. Parce que quand on accepte ce qui est, ben on s'ouvre à savourer le côté positif de ce qui est en fait. Plutôt que de se dire « ça ne devrait pas être comme ça, je devrais être là-haut, faut que je me dépêche », quand on accepte qu'on en est là où on en est, ben du coup on peut se poser 5 minutes, ralentir un petit peu, observer autour de soi et se rendre compte qu'il y a déjà plein de beaux trucs autour de soi, ici et maintenant. Et quelque part, le fait de prendre le temps d'honorer en fait ce chemin qu'on va parcourir, déjà ça rend l'arrivée au sommet d'autant plus délectable parce qu'on a fait l'effort d'y monter. Je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant d'arriver au sommet d'une montagne réelle, hein, pas métaphorique, quand on l'a grimpé à pied que quand c'est un hélicoptère qui nous y a déposé directement au sommet, voyez. Donc c'est d'autant plus délectable, et en plus de ça, ça me permet de prendre le temps d'observer ce qui m'entoure pendant cette montée. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que la vue en haut de la montagne qui est belle, mais aussi les fleurs sauvages dans les sous-bois, les jeux de lumière sur le chemin de montée, la vallée qui s'étend en contrebas, et dont on distingue encore les détails quand on n'est pas au sommet. Tout ça c'est beau, mais on ne le remarque que si on prend le temps de le regarder. Et ça, ça permet de ralentir. Ça permet de prendre conscience de la vue qui nous entoure ici et maintenant, d'en repérer la beauté, qui est peut-être une beauté plus humble que le magnifique paysage des sommets, mais qui n'en est pas moins belle et qui ne mérite pas moins qu'on l'admire. De la même manière, nos expérimentations imparfaites méritent d'exister. Elles portent l'essence de notre inspiration, de nos idées, de notre créativité, de notre humanité. Et on peut tout à fait prendre plaisir à expérimenter. On n'a pas besoin d'attendre que la situation soit parfaite pour trouver de la joie dans nos expérimentations, dans nos initiatives, dans nos projets, dans ce qu'on fait ici et maintenant. Un autre avantage de cette vision slow des choses, c'est que si on se dit que seule la vue du sommet de la montagne vaut le coup, alors on va idéaliser cette vue. En tout le chemin où on n'y est pas encore, on va marcher le plus vite possible, en mettant notre vie entre parenthèses, en attendant d'être arrivé en haut. Et on va avoir de sacrées attentes sur le bonheur que nous apporte le sommet de la montagne. Je commencerai à vivre quand? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réfléchir comme ça? Et puis, une fois qu'on y arrive au sommet de cette montagne, c'est certes un paysage magnifique, mais ça reste un paysage imparfait parce qu'il est réel et pas idéal. Il ne correspond pas à ce qu'on a fantasmé pendant toute la montée. Et bien souvent, on se retrouve déçu. Et du coup, on se lance vers le prochain objectif porteur de promesses de perfection à venir, et on profite même pas de la vue, alors que c'était ça qu'on attendait pendant tout ce temps, voyez ? Et ça aussi, c'est une chose dont j'ai pris conscience récemment, parce que j'ai 35 ans, et j'ai obtenu, comme beaucoup d'entre nous à cet âge-là, beaucoup de choses dont je rêvais quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mes diplômes, et oui j'en ai deux, j'ai un master de japonais et un master de communication, j'ai eu mon stage, j'ai eu mon CDD, j'ai eu mon CDI, j'ai eu mes augmentations, j'ai rencontré mon mari, enfin, à 20 ans, est-ce que je le connaissais déjà ? Non, je le connaissais pas encore à 20 ans. J'ai rencontré mon mari, on a acheté notre logement, j'ai quitté mon emploi pour avoir une vie indépendante qui me correspond beaucoup mieux. Nos revenus sont devenus confortables avec les années et l'expérience professionnelle. J'ai renoué avec l'art, je commence à vendre mes créations et à rassembler une audience qui s'y intéresse et qui les achète. Miracle ! Si la moi de 20 ans découvrait la vie que je mène aujourd'hui, elle se dirait que je l'ai atteint le sommet de la montagne là, que je dois bien en profiter et être super épanouie. Et pourtant, je me suis surprise ces dernières semaines à attendre encore une autre montagne, un autre sommet, attendre la fin du Covid, attendre un atelier d'artiste qui soit séparé de ma maison, attendre davantage de succès, une publication de roman chez un éditeur peut-être, être exposé dans une galerie d'art, ce genre de choses. Et c'est là que j'ai pris conscience que si je ne sors pas de cette course à la vie parfaite, je ne serai jamais satisfaite de ma vie présente. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller et les paliers voyageurs et au-dessus ont accès au script des podcasts en PDF. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. C'est ça le cadeau du slow en fait, c'est apprendre à s'ancrer dans le moment présent et remarquer la beauté de notre vie telle qu'elle est ici et maintenant. Et pour être en mesure de s'en satisfaire, il s'agit d'accepter que la perfection n'existe pas et que l'imperfection est non seulement inéluctable, mais belle, humaine, vivante, pleine de potentiel et de possibilités. Parce qu'après tout, si on atteignait cette vie parfaite, où tout est terminé, tout est achevé, tout est accompli, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Est-ce qu'on se retrouverait pas à errer sans but, seul au sommet de cette montagne, sans avoir de nouveaux chemins à arpenter ? Est-ce que c'est pas le chemin qui est intéressant, finalement ? Et en fait, pourquoi cette route vers l'acceptation de l'imperfection et vers la reconnexion avec le moment présent tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile ? C'est parce qu'on vit dans une société moderne qui nourrit nos insatisfactions. C'est-à-dire que d'un côté, quand on a notre peau de consommateur, notre rôle de consommateur, la société moderne nous présente une vie parfaite à laquelle aspirer à travers tout ce qui est pub, médias en général, puisque tant qu'on est insatisfait, on est en mesure de croire les promesses de ces pubs et donc d'acheter leurs produits pour perfectionner notre vie. C'est-à-dire que la pub marche sur l'insatisfaction. Si on est satisfait de ce qu'on a, on n'a plus envie d'acheter quelque chose d'autre, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pas si on n'en a pas vraiment besoin. Et tout le principe de la pub, c'est de nous faire acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Donc voilà, dans ce rôle de consommateur, la société nous encourage finalement à être insatisfait et à rêver d'une vie parfaite, avec la promesse que les produits apportent cette perfection. Et de l'autre côté, quand on revêt le rôle du travailleur dans cette société moderne, le monde du travail attend de nous une autre sorte de perfection, qui est la perfection de la machine en fait. capable de travailler 8 heures par jour, tous les jours, sans jamais fatiguer, sans jamais flancher, à rendement constant, sans jamais avoir d'émotions, sans jamais être malheureuse, sans jamais craquer. Et que ce soit en tant que travailleur ou en tant que consommateur, on se déconnecte de notre nature humaine, qui est imparfaite. On se déconnecte de la beauté du moment présent, qui est certes imparfait, mais qui a le mérite d'être là, ici et maintenant. Contrairement à un idéal fantasmé dans notre tête, que ce soit l'idéal du travailleur à rendement constant ou l'idéal de la vie parfaite qu'on nous sert dans les pubs. Évidemment, c'est une simplification. La réalité est plus complexe que ça, mais on vit dans une société moderne qui ne nous encourage pas à ralentir et à profiter de ce qui est et à accepter l'imperfection. Et c'est là, dans ce monde moderne, que la philosophie slow m'a énormément aidée avec l'imperfection. C'est-à-dire que le slow m'a aidée à reconnaître que le vivant est imparfait et que c'est précisément ça qui le rend vivant. Les aspérités de la nature, le fait que rien n'est vraiment symétrique ni parfaitement lisse. C'est justement ce qu'on aime dans la nature finalement. Si tout était identique, symétrique, pareil, par exemple une forêt avec un seul arbre parfait qui se répète à l'infini, je suis pas sûre qu'on apprécierait autant notre promenade, on trouverait ça monotone. Et c'est la même chose pour les êtres humains. Nous sommes complexes, multifacettes, nous avons des défauts, nous faisons des erreurs, on fait de notre mieux pour vivre notre vie, et c'est cette imperfection qui nous rend humains, qui nous rend singuliers, et qui nous rend intéressants finalement. Donc du coup, j'apprends à pratiquer cette leçon d'humilité finalement, d'accepter le fait que nous sommes imparfaits, de trouver la beauté dans ces imperfections, notamment à travers la créativité. Depuis quelques temps, j'ose davantage montrer mes créations imparfaites. J'ose lancer des projets imparfaits. Je n'attends pas de comprendre parfaitement le droit des entreprises françaises pour lancer des initiatives. Autant vous dire que sinon, je ne lancerai jamais rien, parce que bon sang que c'est complexe. Et cette leçon créative et slow, je l'étends en ce moment au reste de ma vie. C'est-à-dire m'accueillir en tant qu'être imparfait. Accepter que mes habitudes quotidiennes ne sont pas parfaites, que mon appart n'est pas toujours propre, que je ne mange pas toujours 5 fruits et légumes par jour. Parfois je m'énerve, même si j'aspire à une vie sereine. Parfois je m'achète un bijou que j'ai vu sur Instagram, même si j'aspire à une vie plus simple. Et c'est marrant comment mon univers artistique, ce que m'apprend la créativité et la philosophie de vie, donc ces trois univers-là, art, créativité, philosophie de vie, sont intimement liés finalement. C'est-à-dire que créer m'apprend à mieux me connaître. Mes valeurs d'être humain nourrissent mon art, les émotions nourrissent mon art aussi, et mon art à son tour m'apprend des choses sur moi-même, sur mes valeurs et sur le monde. Et le fait de ralentir avec intention depuis quelques semaines, c'est-à-dire que j'ai vraiment choisi de porter mon focus là-dessus depuis quelques semaines, ça me laisse le temps de remarquer ces choses-là, d'observer, d'apprendre, de voir tous ces liens, de les renforcer, de m'aligner. Et ça aussi, c'est un sujet qui m'a occupée ce mois de juin, c'est de remarquer la synergie entre créativité et slow. Comment créer m'aide à ralentir et me connecter avec moi-même. Comment mener une vie plus lente, sereine, dans l'instant, nourrit à son tour ma créativité. Mais ça, c'est un sujet que je développerai au fil du temps et à mesure que mes idées prennent forme, parce que c'est actuellement en train de germer tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui au sujet du slow et de l'imperfection. C'est une réflexion en germination, hein. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à dire sur tous ces sujets, qu'il y aura d'autres épisodes sur ce genre de thème. Donc si vous avez des questions, des réactions, des commentaires, des choses que vous souhaiteriez que j'aborde plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn157 ou en me contactant via floriteller.com/contact. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !